Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Amen. Quelle grâce, frères et sœurs. Quelle grâce. Je vous dis, quand nous serons dans l'éternité, le jour où tu vas mourir physiquement, que tu vas quitter ton corps déjà, tu seras émerveillé par tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Toute cette gloire qui nous est réservée. Ah, nous voyons au travers des yeux de notre chair aujourd'hui. Et malheureusement, nous ne voyons pas ce qui nous est réservé encore. Nous pouvons seulement que l'imaginer par rapport à ce que nous décrit la parole de Dieu. Et nous avons besoin de la dimension de l'éternité, frères et sœurs, pour pouvoir vivre sur cette terre en vraiment servant le Seigneur et en sachant ce pourquoi nous sommes créés. Parce que ça, c'est vraiment le drame de l'Église, je trouve. Où on prêche l'Évangile aux gens. Et malheureusement, parfois, on les remplit même d'illusions. Et quelques années après, beaucoup sont froids, beaucoup sont déçus, parce qu'on n'aura pas infusé la dimension de l'éternité. C'est pourquoi il est important d'étudier, frères et sœurs, le monde invisible et l'éternité. Parce que sur cette terre, ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan par rapport à toute l'éternité que nous passerons avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous met au courant, nous montre ce qui va se passer. C'est pourquoi nous devons savoir, avoir de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence spirituelle sur ce qui va se passer dans l'éternité. Ça, c'est important. Ça nous permet de vivre sur cette terre en désirant vraiment marcher le plus possible avec Dieu, tout en ayant les yeux fixés sur l'éternité. Ceci doit nous aider à prendre les bonnes décisions, à être influencés selon Dieu et à marcher dans les directions divines de notre destinée. Jean va recevoir cette révélation, ou l'Apocalypse, si vous préférez. Nous savons qu'au chapitre 1, il reçoit une vision de Jésus glorifié. Et Jean tombe sous la puissance de Dieu. Ensuite, Jésus lui donne, chapitre 2 et 3, nous l'avons vu, sept messages aux sept églises d'Asie mineure. L'ouest de la Turquie, cette province de l'ouest de la Turquie. Et puis ensuite, à partir du chapitre 4, l'Église n'est plus sur la terre. Et Dieu nous donne, on l'a étudié ensemble, au chapitre 4, tout ce qui se passe dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Le trône, les 24 anciens.
Les chérubins.
Nous avons étudié tout cela parce que nous avons besoin de connaissance du monde invisible. Nous verrons ces choses-là le jour où tu vas mourir physiquement, où ton corps va rester sur cette terre, où ton esprit et ton âme vont partir au troisième ciel. Et bien tu vas voir ce que Jean a vu au chapitre 4 de l'Apocalypse. Donc nous savons que l'Église n'est plus sur la terre et nous avons vu qu'il y a trois doctrines importantes ici. À comprendre pour que nous puissions aller plus loin. Nous les avons vus. C'est d'abord l'enlèvement de l'Église. C'est Jésus qui revient pour la première fois. Le premier retour de Jésus. Il vient enlever son Église. D'abord, il y a ceux qui sont morts qui vont ressusciter premièrement. Puis les autres seront transformés en un clin d'œil. Ceux qui sont vivants. Ensemble, nous serons dans les airs avec le Seigneur. Et Jésus va nous amener au troisième ciel. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Parce que nous avons vu qu'il va y avoir une tribulation terrible sur la terre. Et nous avons dû étudier les 70 semaines d'années de Daniel. Et nous avons vu que dans les prophéties de Daniel, comme dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament, ils ne voyaient pas, les prophètes de l'Ancien Testament ne voyaient pas le temps de l'Église, la dispensation du mystère, comme Paul nous le dit dans Éphésiens
3.
Ils pensaient que ces 70 semaines d'années étaient continues. Mais nous savons que selon les prophéties bibliques, jusqu'à l'enlèvement du Messie, il y a 69 semaines d'année, 483 ans.
Puis,
il y a la coupure de la dispensation de l'Église qui dure depuis 2000 ans. Mais quand Jésus va revenir, l'horloge prophétique pour Israël qui s'était arrêtée lorsque Jésus est mort à la croix, eh bien va redémarrer à partir du moment où Jésus va venir enlever son Église. Donc nous savons qu'il reste 7 années à être accompli. Et c'est la tribulation. Pourquoi est-ce que Jésus enlève son Église? Parce que Dieu va venir frapper la terre. Donc ça, nous l'avons largement vu, vous l'avez largement compris. La troisième doctrine que nous avons étudiée, c'est le tribunal de Christ, c'est-à-dire nos récompenses dans le ciel. Je vous rappelle que le salut est gratuit. Mais ta récompense, c'est-à-dire ta position dans le royaume futur, eh bien, c'est quelque chose que tu dois gagner. Non pas selon le ministère ou pas que tu auras eu, parce que tout le monde n'est pas appelé au ministère, mais c'est seulement selon ce que Dieu t'aura demandé de faire.
Tu
cherches le Seigneur et tu dis: Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai été créé?
Et
Dieu va te révéler ces choses. Dieu va te donner une vision claire de ce que tu dois faire. Il va te montrer clairement. Il va te confirmer. Et après, il veut que tu rentres dans ces choses. Ce pourquoi tu as été créé, ce pourquoi tu es né sur cette terre. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc ensuite, au chapitre 5, il y a un livre scellé de 7 sceaux. Et personne n'est digne d'ouvrir ce livre, si ce n'est bien sûr l'agneau qui a été sacrifié. Et effectivement, dans ce livre est scellé donc les jugements de Dieu sur la terre. Tous les jugements de Dieu sont là dans ce livre. Et Jean voit de ses propres yeux dans le monde de l'esprit. Il va voir ses jugements sur la terre. Et il va voir le déroulement de cette tribulation. Je vous rappelle que la tribulation est l'œuvre de Dieu. Et que la tribulation, c'est vraiment des jugements que Dieu va envoyer. Comme Dieu avait envoyé des jugements sur l'Égypte. Et je vous rappelle que pendant le temps de l'Église, Dieu ne juge personne et ne juge pas la terre. Parce que ça, c'est une bêtise qu'on entend très souvent même prêchée.
ou
des gens même qui veulent interpréter des choses qui sont dites dans les médias
à propos
d'Israël,
à
propos de toutes sortes de choses qui se passent dans ce monde.
Et
pour l'instant, nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu appelle son épouse, sa bien-aimée, au travers de l'évangile de Christ, la bonne nouvelle, et toute personne qui est dans ce monde qui se reconnaît pécheur, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa nationalité, à partir du moment où il se repent de ses péchés, croit dans le sacrifice de Jésus, accepte Jésus comme son sauveur personnel, il peut naître dans le royaume de Dieu. C'est le privilège du temps de l'Église. C'est ce que Dieu veut, avoir un maximum de personnes qui entrent dans le royaume et qui constitue son épouse, l'Église épouse de
Christ.
Donc, nous avons vu, il y a des jugements qui sont envoyés sur la terre. Les six premiers
sceaux.
Et le septième
sceau
va être une multiplicité de jugements. C'est là où il va y avoir les sept trompettes qui vont
sonner.
Et là, Dieu accélère ses jugements. Plus nous avançons dans la tribulation, plus Dieu exerce ses jugements rapidement. Je vous rappelle que la tribulation est coupée en deux. 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et pendant la deuxième partie de la tribulation, nous savons que tout au début de la deuxième partie, il va y avoir un gouvernement mondial. L'Antichrist va gouverner. Il va tout faire pour éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre et pour persécuter les chrétiens. Il va essayer de persécuter Israël, mais Israël va être protégé. Surnaturellement. Et il va persécuter ceux qui vont naître de nouveau. Parce que je vous rappelle que pendant la tribulation, des gens vont naître de nouveau. Beaucoup vont être choqués à l'enlèvement de l'Église. Beaucoup de gens à qui nous aurons parlé, qui auront refusé Jésus. Le jour où l'Église va être enlevée, ils vont dire, mais mon frère avait raison. Ma mère avait raison. Ma
soeur
avait raison. Mon enfant avait raison. Mon collègue avait raison. Oui, là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se donner au Seigneur. Mais il va y avoir de terribles persécutions comme nous l'avons fait. On va faire des horreurs contre le peuple de Dieu. Jusqu'à tel point où l'Antichrist mettra un système où il va bloquer tous les systèmes politiques, tous les systèmes économiques et tous les systèmes sociaux de ce monde. Nous savons qu'il va travailler avec un faux prophète. Nous avons étudié tout cela, je ne vais pas revenir dessus. On sait aussi que à la septième trompette, entre temps il va y avoir une parenthèse au chapitre 12. C'est là où nous l'avons vu, Dieu révèle des choses sur le diable, les stratégies qu'il va utiliser pour persécuter d'abord Israël et l'Église. Ensuite, nous l'avons vu, chapitre 13, la montée de l'Antichrist. Et puis, il va y avoir à la septième trompette, Dieu va donner les sept dernières coupes de sa colère. Sept derniers jugements qui vont tomber sur la terre, et je vous rappelle que l'objectif de Dieu, c'est de récupérer la gestion de sa propriété. La terre. À la fin de la tribulation, l'objectif est que Dieu récupère la gestion de la terre, la gestion des systèmes de ce monde. Nous avons étudié la statue de Daniel dans Daniel 2. Nous avons étudié les quatre bêtes, la succession des quatre empires aussi dans Daniel 7. Donc nous avons étudié beaucoup de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir dans le résumé. Et nous savons que quand les dernières coupes vont être versées à partir du chapitre
15, il
y a d'abord les cinq premières qui frappent très fort.
Et
je vous rappelle que Dieu accélère ses jugements
et
le diable monte avec son système mondial.
Donc
rappelez-vous, il y a une confrontation de puissance. Beaucoup de surnaturel. Des choses divines, mais aussi beaucoup de surnaturel et de déchaînement satanique. Rappelez-vous bien de ça, parce que c'est ce que nous allons étudier en partie aujourd'hui. La confusion qui va régner à la fin de la tribulation. Donc nous savons à la sixième coupe, et la septième, ça va être l'annonce, donc à partir du chapitre 17, l'annonce de quoi ? Eh bien, de la chute des systèmes de ce monde. La fameuse Babylone la Grande, nous l'avons étudiée. La grande prostituée, comme la Bible l'appelle. Qui sont ni plus ni moins les systèmes de ce monde, le quartier général des systèmes de ce monde du diable.
Qui
essaye de séduire un maximum de gens. En vue de les amener en enfer. Je vous rappelle que le diable sait très bien où il va aller à la fin. Les démons aussi le savent. Rappelez-vous quand il y a eu le possédé de Gadara. Nous l'avions étudié ce passage. Quand Jésus commence à chasser les démons, sur ce possédé qui était vraiment possédé et oppressé par des milliers de démons, les démons ont supplié Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme parce qu'ils savent qu'ils ont des copains là-bas et ils savent très bien qu'ils vont y aller un jour. Vous en faites pas, les puissances des ténèbres savent très bien ce qui s'est passé. Et nous le savons parce que nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc chapitre 17 et 18, Jean va recevoir des révélations absolument qui vont tellement l'étonner sur la chute, les origines aussi des systèmes de ce monde. Et il va voir comment Dieu va détruire juste à la fin de la tribulation tous ces systèmes de ce monde où Satan pensait tenir le monde entier au travers de l'Antichrist et du faux prophète. Nous avons vu la marque de la bête, ce qui va être quelque chose, une alliance spirituelle irrévocable, que ceux qui auront pris cette marque ne pourront plus revenir en arrière et se donner au Seigneur. Ça ne sera plus possible. Et certains chrétiens qui par les persécutions vont craquer et qui vont renier Jésus et qui vont accepter la marque de la bête, ces chrétiens-là perdront leur salut. Très clair là-dessus parce que Dieu les prévient. Donc vraiment des temps, nous l'avons vu, extrêmement difficiles. Au chapitre 18, nous avons vu la réaction céleste et païenne sur la chute des systèmes de ce monde. Le ciel se réjouira et les hommes se lamenteront terriblement. Tout ce qu'ils ont vu, tout ce en quoi ils ont espéré, tout ce pourquoi ils se seront ligués contre Dieu, va s'écrouler comme un château de cartes. Plouf, comme ça.
Et
alors là, ça va être la déception totale. Mais ce sera trop tard. Alors, nous avions commencé à étudier le chapitre
19.
Et le chapitre 19 va nous montrer un certain nombre de vérités très importantes. Et nous avons vu que c'est une sorte de chapitre charnière entre la fin de la tribulation avec le deuxième retour de Jésus qui là ne va plus revenir pour l'Église mais il revient pour Israël. Et nous allons nous enfoncer entre guillemets dans la doctrine du deuxième retour de Jésus. On va s'intéresser à pas mal de choses, vous allez avoir beaucoup d'éclairage sur un certain nombre de paraboles aussi que certainement vous avez lu bien des fois et qui malheureusement souvent nous ont porté à confusion parce qu'elles ont été interprétées hors contexte. Ce chapitre se clôturera par la préparation en vue de l'entrée dans le millénium. Et je vous rappelle que le millénium va être la restauration du royaume de Dieu sur la terre.
C'est-à-dire
que le millénium, c'est on a enlevé le très mauvais gestionnaire, le méchant, qui, je vous rappelle, avait récupéré la gestion de la terre par le péché d'Adam et
Ève.
Il sera mis hors d'état de nuire. Donc Satan sera emprisonné. Et puis Jésus va prendre le leadership des systèmes de ce monde. Avec qui ? Avec vous et moi. Absolument. Et nous verrons comment ça va marcher. Nous allons étudier le millénium dans les prochaines séances. Mais là, nous sommes vers la fin de la tribulation. Donc nous avons vu que la Bible va nous parler des noces de l'agneau. Et bien sûr, l'idée des noces de l'agneau, c'est bien évidemment que l'époux et l'épouse vont être ensemble sur la terre. Alors, nous avons vu aussi que dans ce chapitre, nous allons être obligés d'étudier des paraboles de la fin de Matthieu 24. La parabole des serviteurs, nous verrons. Et deux paraboles qui sont de Matthieu 25. Qui sont la parabole des 10 vierges et la parabole des talents. Donc ça, on étudiera cela certainement tout à l'heure. Là, nous avions lu du verset 11 au verset 21. Et je vais les relire rapidement, puis nous allons continuer à voir la chronologie du deuxième retour de Christ. Il est dit à partir du verset 11, puis je viens le ciel ouvert, pardon, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ça nous rappelle Apocalypse 1. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, toujours l'Apocalypse 1, quand Jean reçoit la vision de Jésus glorifié. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc nous reconnaissons Jésus, bien sûr. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Le grand festin de Dieu, ce ne sont pas les noces de l'agneau. Ça, c'est le festin de la vengeance de Dieu par rapport aux nations. « Afin de manger de la chair des rois, de la chair des chefs militaires, de la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Verset 19, « Et je vis la bête, rappelez-vous, C'est l'Antichrist et les rois de la terre, donc ceux qui l'avaient ceux qui l'avaient suivi. Et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Verset 20, et la bête fut prise avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Nous verrons cette expression, l'étang de feu et de soufre. Verset 21, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors, dans ce passage, nous avons la bataille d'Armageddon. Et nous avons aussi, bien évidemment, le retour en gloire, le deuxième retour de Jésus. Donc nous avions vu un certain nombre déjà d'événements chronologiques, nous allons continuer là. Et parce que sinon, il nous faut l'image globale. Parce que je vous rappelle que quand nous étudions l'Apocalypse, une des grandes difficultés, c'est de trop se concentrer sur un point. Parce que d'un seul coup, dans les visions que Jean a reçues, très souvent, il commence à décrire quelque chose et puis il va très profondément, même dans certains détails. Et on a tendance à oublier l'image globale. C'est une erreur d'interprétation qu'on voit extrêmement souvent quand les gens interprètent l'Apocalypse. Donc pour ceux qui ont fait de la photo, c'est comme on zoomait et qu'on dézoomait. Régulièrement, on fait ça, comme ça, on a l'image globale et en même temps, on peut regarder les détails. Donc, nous avons vu que d'abord, toutes les nations vont se liguer contre Israël dans la vallée de
Megiddo.
Nous avions étudié Zacharie 12,
Joël
4, Apocalypse 16. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va voir qu'Israël va être tellement menacé qu'Israël va être au bord de la destruction. Pourquoi ? Parce que là, d'un seul coup, l'Antichrist et toutes les armées du monde vont être dans cette vallée de Megiddo. Nous l'avions vu sur les cartes, à peu près 80 km de Jérusalem. Et en fait, Israël, donc en deuxième lieu, va être complètement au bord du gouffre. Israël sera prêt à être vraiment détruit là. Ensuite, nous avons vu qu'à ce moment-là, il va y avoir une repentance, une conversion d'Israël. Et ça, c'est très important. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et ça, c'est vraiment merveilleux. On va relire brièvement quelques passages. Zacharie 12, versets 10 et 11. Zacharie 12, versets 10 et 11. Et il est dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vous voyez, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Verset 12. En 10 et 11, on avait dit, excusez-moi. Alors, on va lire un autre passage, c'est celui de Romains, chapitre 11, versets 25 et 26. Romains 11, versets 25 et 26. La Bible va nous parler d'un mystère. Rappelez-vous, un mystère, c'est une connaissance cachée que Dieu révèle à un certain moment. L'enlèvement de l'Église était déjà planifié par Dieu depuis l'éternité. Ça n'a pas été révélé aux prophètes de l'Ancien Testament. Mais Dieu l'a révélé au travers de l'apôtre Paul. C'était un mystère. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité, rappelez-vous de ça, la totalité des païens soit entrée. Verset 26. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés.
Bene data singomba ko mutamenye ribanga mwoye kwita abanyabwenge ni yuko habaye gukomantaza imitima y'Abisirayeli ariko si bose gushitsaho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero ni byaba bityo Abisirayeli bose bazokizwa nkuko handitswe ngo Isiyoni hazova umurokozi azokura muri Yakobo ukutubaha Imana.
Donc nous savons Israël va se repentir en masse.
Aro turazi ko Israël benshi bazokwihana.
Et ils vont se convertir en grande majorité.
Ari benshi bakizwe ari.
Il va y avoir un immense réveil ultra rapide.
Habe ikanguro rikomeye muri Israël rinyaruka.
En Israël.
Muri Israël.
Ce qui ne veut pas dire que pendant tout le temps de l'histoire de l'Église, il n'y a pas eu des Juifs qui se sont donnés au Seigneur. Quand nous étudions comment Israël s'est donné à Christ, l'Église est née à Jérusalem. Il faut s'en rappeler. Ils se sont donnés au départ, vous verrez ça au début des Actes. Mais après, rapidement, l'Église est devenue de souche païenne. Quand vous étudiez la chronologie donc, qui nous est donnée dans les Actes des Apôtres, au début, c'est l'Église de Jérusalem qui dirige toute l'Église de Dieu. Après l'Église d'Antioche, il y a un immense réveil à Antioche.
Qui
était un port au bord de la Méditerranée, au Moyen-Orient, mais qui n'était plus en Israël. Et après, nous le savons, dans Acte 19, c'était Éphèse, là où il s'est passé énormément de choses. Et quand on étudie l'histoire de l'Église, on sait qu'en l'an 70, Israël était détruit, Jérusalem était détruite. Et puis Israël n'était plus une nation de l'an 70 à l'an 1948, pendant 19 siècles.
Mais
entre-temps, il y a quand même eu des Juifs de tout temps qui se sont convertis à Christ. Il y en a eu très peu pendant certaines périodes, un peu plus dans d'autres périodes. Et même aujourd'hui en Israël, il y a des églises, vous savez. Il
n'y
en a pas beaucoup, mais il y en a.
Arikarahari.
Donc vous voyez, les Juifs se sont toujours plus ou moins convertis, mais peu, très peu. On
ne
peut pas dire que parmi les Juifs, il y a eu un réveil, hormis le premier réveil d'Acte 2,
la Pentecôte.
Ça, à la Pentecôte, c'est vrai, il y a eu un puissant réveil.
Mais
nulle part dans l'histoire de l'Église, après la
Pentecôte,
il n'y a eu un réveil en Israël ou parmi les
Israélites.
Nulle part vous trouverez cela dans l'histoire de l'Église. Par contre, là, à la fin de la tribulation, alors qu'Israël sera tellement, tellement au bord de la destruction totale, ils vont crier à celui qu'ils ont
crucifié.
Et ils vont reconnaître celui qu'ils ont crucifié. Et ils vont se repentir d'une façon incroyable. Et c'est là où ça va amener quoi ? Le deuxième retour de
Christ.
C'est là où, le quatrième point chronologique, Jésus va revenir en gloire. Il revient en gloire avec une grande puissance. Ça, c'est le quatrième point. Il revient en gloire avec une grande puissance. Et il revient avec qui? Avec vous et moi. Absolument. Quand la Bible nous parle que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va venir avec une armée, eh bien, nous allons découvrir que cette armée, ça va être des anges, mais aussi nous. Des anges et nous. On peut regarder on revient dans l'Apocalypse 19, versets 12 à 14. Il est dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Nous l'avons vu tout à l'heure, ce passage. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu, verset 14. Regardez bien maintenant, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un linfin pur, blanc et pur.
Kunyongaziwe n'imbeya z'umuriro no mu mutwe yambaye imigara myinshi kandi afise izina ryanditswe nta urizi atari we wenyene yambaye impuzu zajobetswe mu maraso kandi yitwa jambo w'Imana ingabo zo mwijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye.
Voyez les armées qui sont dans le ciel.
Ingabo ziri mwijuru.
Et en fait ces armées eh bien ça va être les anges et nous frères et sœurs.
Izo ngabo n'abamarayika.
Nous allons voir plusieurs passages où il est mentionné que Jésus ne reviendra pas pour la deuxième fois tout seul. Regardons ensemble Matthieu 24, versets 27 à
31.
Matthieu 24, versets 27 à 31.
Matthieu
24, 27 à 31. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, la venue. Rappelez-vous, nous sommes dans Matthieu. Rappelez-vous que Matthieu était un évangile qui était adressé aux Juifs principalement. C'est pour ça, je vous le rappelle, que nous avons des détails sur la tribulation que nous n'avons pas dans les autres évangiles. Matthieu est l'évangile où il y a le plus de prophéties messianiques.
Matayo nibwo butumwa butubwira ibintu byinshi byo buvugishwa
kuri Mesiya. Des événements prophétiques qui vont concerner Israël.
Ibintu byinshi byo buvugishwa bivuga kuri Israël.
C'est pour ça que vous avez dans Matthieu 24 et 25 beaucoup d'explications.
Nico gituma muri Matayo 24 na 25
sur la tribulation.
Basigura byinshi kubijanya n'igihe
cy'ihamwe. Et sur la fin du monde.
No kubijanya n'impera y'isi.
Quand Jésus va revenir.
Igihe Yesu azogaruka.
Et le deuxième retour.
C'est
beaucoup plus facile. Vous savez, quand vous comprenez ce qui est écrit dans Daniel, à qui c'est adressé, pourquoi, comment. Même chose pour Matthieu. Et même chose dans l'Apocalypse. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc ainsi sera l'avènement, donc la deuxième venue ici, du Fils de l'homme, c'est la fin de la tribulation.
Verset
28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Vous vous rappelez que ça, c'est une prophétie pour montrer que Israël sera quasiment comme un cadavre, c'est-à-dire prêt à mourir.
Et
que là on parle de la bataille d'Armageddon ici.
Et
les aigles, c'est pas une bonne traduction. Les meilleures traductions, ce serait les vautours.
Ou les méchants
corbeaux. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, nous l'avons vu dans l'Apocalypse. Vous vous rappelez ces phénomènes-là. Les étoiles tomberont du ciel, alors attention ici. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant, regardez bien, venant sur des nuées avec puissance et une grande gloire.
Hanyuma yayo marushwa y'ico gihe uwo mwanya izuba rizocura umwiza n'ukwezi ntikuzoba kucaka umuco wako n'inyenyeri zizokora gurika zive ku ijuru n'iby'inkomezi byo mu majuru bizonyiganyizwa buni kimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru nihamoko yose yo mwisi azoboroga bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo ku ijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi.
Voyez, là Jésus va revenir.
Avec
une grande puissance.
Afise ububasha bwinshi.
Avec une grande puissance et une grande gloire.
Ububasha bwinshi n'icyubahiro cyinshi.
Mais là il va venir pour frapper les inconvertis.
Ararazobaje kugira ngo ahane abatizeye.
La première fois que Jésus est venu, il est venu comme une faible plante, nous dit Ésaïe.
Yesu ubwa mbere azo yaje ngo nk'igiti cy'intege.
Il n'avait rien pour attirer nos regards.
yaje atakintu cyo tuma tumwiheza.
Il est venu, il a guéri les malades.
Araza kiza abagwaye.
Il a délivré les démoniaques.
Araza bohora ababoshwe.
Il a fait des miracles.
Akora ibitangaza.
Il a enseigné.
Arigisha.
Sur l'amour du Père.
Kurukundo rwa data.
Puis il s'est laissé prendre sa vie.
Munyuma aremera baramwaka ubuzima.
Ne disant rien.
Atacavuze.
La deuxième fois qu'il viendra.
Ubwa kabiri ni yagaruka.
Il reviendra, donc son premier retour.
Azoza mu kugaruka kwiwe kwa mbere.
Là, qu'est-ce qui va se passer?
Ikizoba n'igihe.
Jésus vient juste enlever son église.
Azoza gutora ishengero ryiwe.
Mais il ne touche pas aux inconvertis.
Ariko ntazokora ku bapagani.
Il vient protéger son épouse.
Azoba aje kurinda umugeni wiwe.
Par contre, 7 ans plus tard,
imyaka indwi iheze,
lorsqu'il va revenir son deuxième retour,
niyagaruka mu kuza kwiwe kugira kabiri.
Troisième venue, deuxième retour.
Urumva n'ukugaruka kwiwe kwa kabiri mugabo kuza kwisi kwa gatatu.
Quand on fait un retour, ça veut dire qu'on est déjà venu une fois.
Iyo umuntu agarutse bisobanura ngo yari yaraje aho hantu.
Donc c'est la troisième venue de Jésus.
Urumva n'ukugaruka kwa kabiri mugabo kuza.
Mais c'est son deuxième retour.
Kwa gatatu kugaruka kwa kabiri.
Et là la Bible nous dit qu'il vient sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire.
Gwasoza kubicu afise ububasha n'inkomezi byinshi.
Maintenant regardez verset 31.
On
est en train de chercher comment est-ce que Jésus va revenir pour la deuxième fois. Il enverra ses anges, regardez bien, ses anges seront là. Avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il n'est pas dit qu'ils vont être enlevés, ça c'est pas l'enlèvement. Il dit qu'ils vont être rassemblés. Nous en parlerons juste un peu plus tard. Regardons un passage parallèle encore. On regarde comment Jésus va revenir. Luc 21, verset 27. C'est un passage encore parallèle. Sur le deuxième retour de Jésus. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, c'est-à-dire la gloire de Dieu avec une puissance et une grande gloire. Donc on sait qu'il va y avoir une grande puissance qui va être déployée. Zacharie chapitre 14. Zacharie, je vous le rappelle, vous avez Matthieu, avant vous avez Malachie, et juste avant vous avez Zacharie. La Bible va donner quelques détails à propos du retour, deuxième retour de Christ.
Bibiliya iratwereka idoni do gato kubijanye no kugaruka kwa kabiri kwa Kristo.
Là, Jésus Dieu va nous montrer un certain nombre de choses dans sa parole, verset 1 au verset 5. Et le Seigneur va nous montrer la façon dont il va revenir la deuxième fois. Là, c'est Zacharie. Zacharie, quand on parle d'un retour, ça veut dire le deuxième retour, obligatoirement. Après la tribulation.
Vous
voyez, rappelez-vous, les prophètes de l'Ancien Testament ne connaissent pas et n'avaient aucune révélation sur la dispensation de l'Église, donc de l'enlèvement aussi. Donc là, c'est à la fin de la tribulation.
Zacharie
14. Voici le jour de l'Éternel. Ah, le jour de l'Éternel. Il y a un jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Ça va être le jour où Dieu va se venger des nations. Le jour de l'Éternel, c'est à la fin de la tribulation. Où Dieu vient régler les comptes avec toutes les armées du monde, avec l'Antichrist et le faux prophète. Et le jour de l'Éternel, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations. On a des choses communes ici. Je rassemblerai toutes les nations. On a déjà vu ça. Armageddon. Pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3, l'Éternel paraîtra, ou apparaîtra, viendra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Verset 4, ses pieds, regardez bien, ses pieds se poseront. Vous vous rappelez qu'à l'enlèvement, Jésus n'a pas posé les pieds sur la terre. À l'enlèvement, Jésus est dans le ciel, au premier ciel, et whitt, tout le monde est attiré vers lui.
Ibuka mu gutora ishengero, Yesu azoza agume mu kirere mu ijuru rya mbere, akwege abantu bose bari mu isi.
Rappelez-vous, à l'enlèvement, nous, l'Église, nous le verrons. Les inconvertis ne le verront pas. Il va nous appeler, il va dire Steve.
Olivier.
C'est comme ça que ça va se passer. Mais tellement rapidement que personne ne pourra réagir. Donc, nous savons qu'à l'enlèvement, premier retour de Jésus. Jésus va être dans les airs et son église va être aspirée vers lui. Le deuxième retour, Jésus vient pour Israël, pour délivrer
Israël
de la bataille d'Armageddon. C'est ça qui se passe ici. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers.
Qui est
vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et une autre moitié vers le midi, c'est-à-dire vers le sud. Verset 5, regardez bien. Vous fuirez alors dans les vallées de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui dans le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Regardez bien la fin du verset. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et qui? Tous ses saints. C'est nous, tous ses saints avec lui.
Ngo kuri uwo munsi, ngo muzohunga muce mu ruhomoka rwo mu misozi yanje, kuri uruhomoka rwo muri iyo misozi ruzoshika no kuri Azeri. Mbere, muzohunga nk'uko mwahunze hamwe isi ya Tigita ku ngoma ya Uziya, umwami w'i Buyuda. Mazuhoraho imana yanje azoza azananye nabera bose.
Alors regardons ensemble maintenant Daniel chapitre 7 verset 13.
Danieli igice cindwi umurongo w'13.
Ce sont des passages, vous voyez, quand on les recoupe, on a quelque chose de très commun avec des détails un peu différents.
Nibisomwa iyo bihuje
mais complémentaires.
Urakuramwe ikintu cuzuzanya.
Donc on sait que Jésus revient alors qu'Israël est au bout. Mais il revient avec une grande puissance et une grande gloire. Il revient avec une armée du ciel qui est constituée de deux types d'êtres. Nous, c'est ça. Et les anges. Et Jésus revient pour Israël. Il est dit: je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations, les hommes et de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit.
Ngo kandi mu byo neretswe mu ijoro nagize ntiyambona haje usa n'umwana w'umuntu azananye n'ibicu byo ku ijuru aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramumushikiriza aca ahabwa inganje n'icubahiro n'ubwami kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe ingoma yiwe n'ingoma itazovaho kandi ubwami bwiwe n'ubwami butazohangura.
Vous savez, quand nous étudions Daniel, c'est incroyable de voir comment Dieu lui a révélé des choses. C'est absolument phénoménal. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'avait reçu une telle révélation sur la fin des temps. Et c'est vraiment, Daniel est un livre clé pour comprendre la fin des temps, même pour nous l'Église. C'est étonnant de voir comment Dieu a utilisé cet homme. Ah, vraiment, quand je lis ce livre, ça me... waouh. C'est absolument incroyable la révélation qu'il a reçue. Mais toujours pour Israël, Israël, Israël. Daniel ne voyait pas l'Église. Mais il a vraiment vu l'aspect des systèmes de ce monde qui vont tomber. Et là, on voit bien. Le Messie revient. Il le voit revenir en gloire. Il a eu une vision du deuxième retour de Jésus. Lui, vraiment, il se posait des questions. Daniel a dû se poser une multitude de questions. Et Dieu n'a pas répondu à ces questions. Parce que ces choses-là ont été écrites pour nous. Elles ont été écrites pour la fin des temps pour Israël. Mais c'est incroyable ce qu'il a reçu comme révélation.
Donc,
on voit, il y a le retour du Messie. Et après, il prend quoi? Le leadership du monde. C'est ce qu'on voit ici. Ça correspond à la statue de Daniel 2 quand il voit la petite pierre démolir les systèmes de ce monde. Cette petite pierre qui devient une immense montagne qui remplit toute la terre.
Donc,
symbole dit l'ange dit cela à Daniel. Il va y avoir un royaume qui va venir, qui va être insignifiant au départ, qui va s'étendre sur toute la terre comme une montagne, et qui ne sera jamais dominé par un autre et qui sera éternel. Comment est-ce que celui qui dirige ce royaume va prendre le leadership de la terre? Eh bien, c'est là, c'est marqué, il revient et il va dominer. Alors, quand Jésus revient, que va-t-il se passer? Numéro 5. Christ va écraser toutes les armées et il va détruire l'antichrist et le faux prophète. Ça, c'est très important. Donc Jésus revient, mais il va faire quelque chose. Il revient avec, en gloire, en puissance et en gloire, avec ses anges, avec nous, et boum, il va détruire l'antichrist,
Antichristo,
le faux prophète, et bien sûr toutes les armées qui seront là. Apocalypse 19, 17 à 21, nous l'avons déjà lu, mais nous le voyons très bien ici.
19, 17 à 21,
on parle du grand festin. Je vous rappelle ici, c'est la bataille d'Armageddon, c'est le jour de l'Éternel, c'est le jour de vengeance de Dieu. Je viens un ange qui se tenait dans le soleil, cria d'une voix forte en disant, tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, verset 18, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les libres, les esclaves, petits et grands, verset 19. Je vis la bête. Rappelez-vous, la bête, c'est qui? C'est l'antichrist et les rois de la terre et leur armée rassemblée. Rassemblée pourquoi? Pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Parce que en voulant détruire Israël, Jésus va revenir et d'un seul coup, tout le monde, toutes ces armées vont vouloir essayer de détruire Jésus. Verset 20, la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Verset 21, les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche, celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc on voit ici que c'est clair, quand Jésus revient, il y a destruction de toutes ses armées. Il y a destruction de toutes les puissances militaires qui se sont rassemblées pour détruire complètement
Israël.
Et Jésus va détruire quoi? Il va détruire l'antichrist et le faux prophète. Il détruit tous les rois. Donc tous les leaders de cette époque, toutes les armées. 2 Thessaloniciens 2:8, 2 Thessaloniciens 2:8 nous en parle aussi. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira. L'impie, vous vous rappelez, c'est l'antichrist. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Deuxième retour. Donc c'est clair, quand Jésus revient, il va détruire l'antichrist, le faux prophète.
biratomoye Yesu agarukitse azokuraho antikristo umuvugishwa w'ibinyoma
les armées
azokuraho ibisirikare bizo byakikuje
les leaders
abarongozi bose bico gihe
ça ira plus loin mais on va en parler juste après
bizobandanya mugabo tubaye turavuga kuri ivyo
Daniel 7
Danieli igice cindwi tuhagaruke
verset 11 12 et 26
umurongo wa 11 gushika 12 hamwe na 26
Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Ça ressemble fort à ce que nous avons lu à la fin de l'Apocalypse 19, quand il est dit que l'Antichrist et le faux prophète furent tués, leur corps fut brûlé et jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Ça veut dire strictement la même chose. Verset 12, les autres animaux. Animaux, l'image, c'est leader destructeur, leader qui ont mis ce monde par terre et qui ont dominé ce monde, furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Verset 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais ou pour toujours, ça serait mieux. Au verset 26, c'est clair qu'on va enlever la domination à qui ? À l'ennemi qu'il l'avait au travers, je vous rappelle, du péché d'Adam et Ève, et qu'il l'exerçait à cette période-là au travers de
l'Antichrist.
Alors, Daniel chapitre 9, versets 25 à 27.
Daniel 9, 25 à 27.
Donc 9, 25 à 27. On retrouve encore ici ce même principe. Quand Jésus revient, sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Verset 26, nous avions déjà étudié cela, les 70 semaines d'année de Daniel. Après les 62 semaines, un loin où le Messie sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. L'Antichrist. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine d'année, 7 ans, je vous rappelle. Et durant la moitié de la semaine, 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est là, je vous rappelle, où l'Antichrist fera une alliance avec Israël. Israël va se faire séduire, malheureusement. Le dévastateur, donc l'Antichrist, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, regardez bien, et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Tu peux lire le verset 27, la fin, s'il te plaît. Merci.
Ngo kandi azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe n'iryagera hagati azokuraho ibimazi n'amashikanwa ugeseza azoza kwiba abagibizira maze ubuyobe buzosukwa kuri uyo ageseza gushitsa ku muhero washinzwe.
Voilà, donc ce cinquième point, c'était Jésus écrase toutes les armées, détruit l'Antichrist et le faux prophète. Donc je vous rappelle, le point numéro 1, c'est toutes les nations se liguent contre Israël dans la vallée de Megiddo.
Numéro 2,
Israël est épuisé au bord du gouffre, ils sont prêts à détruire.
Numéro
3, il crie à Dieu, il se repente et il crie au Seigneur.
Un immense
réveil se produit.
Et numéro
4, Jésus revient, deuxième retour. Avec nous et avec ses anges.
En
puissance et en gloire.
Numéro 5,
Jésus avec nous écrase toutes les armées, détruit l'Antichrist et le faux prophète.
Et numéro 6,
c'est la fin du monde.
Et
la fin du monde, Dieu va faire mourir tous les inconvertis.
Ça, il va falloir
bien comprendre. Parce que dans le millénium, l'entrée dans le
millénium, ça
ne se fera qu'avec ceux qui connaissent Dieu. Donc nous, mais aussi ceux qui ne sont pas morts pendant la tribulation
et
qui ont reçu Jésus
et
qui sont nés de nouveau Il y en aura un certain nombre
bamwe muri bo
qui ne seront pas morts.
Batazoba bapfuye.
Ils seront encore dans leur corps mortel mais qui ne seront pas morts physiquement.
Bazoba bakicambaye imibiri yabo.
Ils seront nés de nouveau. Et ils entreront dans le millénium comme ça. On va étudier parce que ça va nous donner des explications pour la suite. Mais d'abord, Dieu va faire mourir tous les inconvertis. Et c'est là où nous allons découvrir des clés pour la fin justement de la tribulation. Dans Matthieu 25, verset 41, et il dira ensuite à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. »
Maze azobwira abari bumoso ati mvira uhande mwabivume mwe muje mu muri rutazima wateguriwe wa mugwanizi n'abamarayika biwe.
On verra que dans Matthieu 25, Jésus va donner aussi une parabole.
Muri Matthieu 25, Yesu
aratanga les brebis et les boucs.
Umugani kubijanye n'intama n'intama n'impene.
Les boucs seront ce sera le symbole des inconvertis à la fin du monde.
Intama
rero à la fin de la tribulation.
Abatari ntama ni abapagani kumpera igihe cyihamwa.
Et les brebis, c'est ceux qui ont reçu le Seigneur pendant la tribulation et qui ne seront pas encore morts physiquement.
Intama nazo nabo bazoba bakijijwe batapfuye muri ico gihe cyihamwa.
Et Jésus va les séparer.
Yesu abatandukanye.
Ceux qui seront inconvertis à la fin de la tribulation, Dieu va les faire mourir.
Abazoba bakijijwe ku badakijijwe kumpera y'ihamwa Imana izobica.
Et ceux qui sont sauvés vont entrer dans le millénium. On va souvent répéter ça, on va revoir plusieurs textes qui vont le prouver.
Parce qu'il y a
beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre cela. Après, le sixième point ici, dans la chronologie, Jésus, donc Christ, va prendre la domination du monde. Des systèmes de ce monde. Je vous rappelle que nous chantons parfois certains chants. Nous disons que Dieu règne sur la terre. C'est prophétique ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dieu règne sur le Burundi. S'il règne sur le Burundi, ce n'est pas brillant. S'il règne en Irak et en Iran, ce n'est pas très brillant non plus. En Syrie non plus, d'ailleurs.
Voyez,
bon, on chante des chants qui parfois sont abusifs. Tu peux dire que Jésus règne dans ton cœur si tu es né de nouveau. Mais Jésus ne règne pas sur les nations aujourd'hui. Un jour, il va régner. C'est à la fin de la tribulation. C'est là où il va prendre le règne. Parce qu'il aura écrasé et détruit tous les systèmes de ce monde. Il aura mis hors d'état de nuire le diable. Et ça, on va le découvrir quand on va continuer dans l'Apocalypse chapitre 20.
Donc,
le début du chapitre 20 de l'Apocalypse va nous expliquer cela. Mais on va lire aussi Daniel 7, verset
27.
Daniel 7, 27, s'il vous plaît. Merci. Et là, nous allons voir le règne et la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Tous les dominateurs le serviront et lui
obéiront.
Oui, nous serons appelés à régner sur la terre. Mais quand notre Seigneur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Berger, sera revenu pour la deuxième fois et qu'il aura pris le leadership des systèmes de ce monde en les transformant. À ce moment-là, ta destinée réelle de régner sur la terre sera en plénitude. Rappelez-vous que dans l'Apocalypse, il nous est dit qu'il a fait de nous des rois, un royaume des rois et des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous pouvons exercer une certaine domination sur nos circonstances. Ça, c'est une réalité du royaume de Dieu. Mais nous ne pouvons pas établir le règne de Christ sur la terre dans le temps de l'Église. C'est une erreur d'ailleurs que je vois très souvent enseignée quand les gens commencent à enseigner sur le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons régner sur nos circonstances. Nous pouvons régner dans l'atmosphère sur laquelle Dieu nous a donné un rayon d'action. Mais nous ne pouvons pas établir un règne de Dieu sur la terre dans les nations. Nous pouvons les influencer si nous-mêmes nous sommes beaucoup à être influencés par Dieu. Mais il y a un certain nombre d'enseignements qui ont été trop loin malheureusement sur le royaume de Dieu et qui commencent à poser des problèmes dans le corps de Christ.
Non,
le jour où Jésus reviendra la deuxième fois, il régnera et nous régnerons avec lui sur la terre, sur sa propriété. Daniel 2,14 nous donne exactement le même schéma. Et rappelez-vous que Daniel, non, c'est 2,24, excusez-moi, c'est pas 2,14, c'est 2,24.
Daniel 2,24,
je vais vérifier dans mes nombreuses notes. Non, 2,44, oulala, 2,44, excusez-moi. 2,44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement.
Ngo nuko ku ngoma zabo bami imana yo mwijuru izohagurutse ubundi bwami butazokwigera buhangura kandi ingoma y'inganje yabwo ntaho izonyagwa nirindi hanga ariko buzomara bukomvomvore ubwami bwose bwabo bami yamara bwo buzohangama gushitsa ibihe byose.
Donc ça, il faut bien le comprendre. Ici, vous avez le schéma de ce qui va se passer. Et de ce qui a commencé à se passer. Dans le temps de ces rois, vous vous rappelez des différents empires. Quatrième empire, l'empire romain. C'est là où le Messie vient. Et il va faire naître au travers de son sacrifice un royaume éternel, le royaume de Dieu. Comment nous y entrons, nous savons, au travers de la nouvelle naissance. Et la Bible nous dit clairement, un royaume qui ne sera jamais détruit, donc éternel. Il ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Vous savez, Daniel, quand il était prophète,
Daniel, il
était sous le roi Nabuchodonosor qui était babylonien. Et un jour, le fils donc de Nabuchodonosor avait pris la suite. Et un jour, il y a un autre roi, les Mèdes et les Perses, qui sont venus envahir Babylone. Et du jour au lendemain, Daniel s'est retrouvé avec un autre souverain sous un autre royaume. Donc vous voyez, Daniel savait très bien quand il a eu cela avant que ça se produise, quand ça s'est produit quelques années plus tard, ça lui a parlé parce qu'il avait déjà reçu la vision de la statue. Et ça lui a donné la compréhension. Un royaume qui ne passera jamais sous la domination d'un autre. Ah oui, pas comme les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, dont j'ai été un spectateur, j'ai vu comment ça s'est passé. Vous voyez, c'était très parlant pour lui. Là. Il brisera et anéantira tous ses royaumes, ça veut dire les systèmes de ce monde.
baravuga ngo izo nyaga ngo ariko buzomara bukomvomvore ubwami bwose bwa babami
à la fin de la tribulation. Voilà exactement, c'est ça qui va se passer.
Kumpera igihe cihamwa nivyo bizoba.
Jésus va détruire tous les systèmes de ce monde.
Yesu azosambura ivyisi
vyose. Pour établir un système divin de gestion divine pour ce monde.
Kugira ngo azane intwaro y'ijuru kwisi.
Et nous verrons absolument pendant le millénium ce qui va se produire sur la terre.
Aha tuzobona mu gihe cy'imyaka igihumbi nganje ya Kristo ibizoba kwisi.
Parce que quand le gestionnaire divin sera là et va mettre les principes divins sur la terre de gestion.
Kubera yuko wa mubwiriza mwiza ava mwijuru niyaza katwara isi
nkuko bibereye. Prosperité, paix, sécurité.
Isi zokuzura amahoro gutunganirwa n'umutekano.
Et bonheur pour tous les habitants de la terre.
Numune zero mwinshi kubari mwisi bose.
C'est ce que nous verrons dans le millénium.
Ibintu byo tuzobona muri iyo myaka igihumbi kuganza kwiwe.
Donc celui-ci, donc ce royaume-là va subsister éternellement. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre, parce que nous ne pourrons pas aller plus loin si nous n'étudions pas la fin de Matthieu 24 et aussi certaines paraboles de Matthieu 25. Donc vous vous rappelez que Matthieu 24 va nous parler comme aucun autre livre
biravugana natwe uko atakindi gitabo kibikora.
À propos de ce qui va se passer pendant la tribulation,
kubijanye n'ibizoba mu gihe cihamwa,
il va y avoir plein de choses qui sont relatées au prophète Daniel.
Hazoba ibintu byinshi Daniel abwigwa.
Toute la tribulation, la grande tribulation.
Ihamwa, ihamwa rikuru.
Jésus va dire à partir du verset 23.
Kuva ku murongo wa 23 Yesu
aravuga. On va lire le verset 23 parce que ça va être une introduction sur ce que je vais vous faire par la suite. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, nous sommes à la fin de la tribulation, le Christ est ici, parce que les gens savent que le Christ va revenir, il est là, ne le croyez pas, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, vous voyez au pluriel, de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges, il n'est pas dit des prodiges, de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même qui les élus.
Ngo ico gihe ni hagira umuntu ababwira atehe Kristo ari hano canke ari hariya ntimuze muvyemere kuko hazokwaduka abigira Kristo nabigira bavugishwa n'Imana bagakora ibimenyetso bihambaye nibitangaza kugira ngo bazimize nabatoranijwe n'ivyashoboka.
Donc on voit confusion complète spirituelle sur la terre.
Ariho hazoba ari kuzazanirwa gushitse.
Les gens mélangent tout. Vous savez, parfois, aujourd'hui, c'est étonnant. Moi, des fois, je vois des chrétiens. Des fois, qui ont été formés dans la parole.
Qui
ont marché pendant des années avec le Seigneur correctement. Et d'un seul coup, il y a des gens qui commencent à venir, qu'ils vont écouter à droite à gauche. Qui se donnent des titres à n'en plus finir. Évidemment, de prophètes en général. Ou tout un tas de trucs. Et d'un seul coup, on a l'impression qu'ils deviennent comme des robots. Comme des robots. Ils marchaient bien avec le Seigneur. Ils commençaient à s'épanouir dans le Seigneur. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui les rencontre, quelqu'un qui les entend, qui commence à leur donner des choses soi-disant de Dieu. Et c'est le début de leur chute. Des fois, je vois même des gens, des intellectuels, croire des choses.
Ils
marchaient dans le Seigneur bien, proprement, correctement.
Et comme
par hasard, le diable vient et traversent leur chemin au travers de personnes.
Et
quelques années plus tard, vous les retrouvez pris dans des fausses doctrines, des trucs bizarres, alors qu'ils ont eu l'enseignement, alors qu'ils ont passé, qu'ils ont même certains sont diplômés de l'institut. Des fois, je m'assois, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'il faut qu'on fasse du sensationnel?
Les
gens cherchent-ils des gourous spirituels? Je ne sais pas comment tu vas traduire ça, mais tu vois, des maîtres spirituels où, qui doivent tout leur dire. Tout, Dieu dit ça, il faut passer par moi dans tout ce que tu veux faire.
Bega abantu bashaka ahantu baza abantu bameze nk'abapfumu bo mu buryo bw'impembo baza bararaguriza ko amazi ati none ngahanje hengire gute.
C'est presque ça, c'est presque des sorciers spirituels, mais tu as raison. Et c'est clair, c'est des gens qui sont là et on a l'impression d'un seul coup ils sont comme vuf, séduits par quelque chose.
Ukamenga rero umuntu ahuye n'ikintu kimu kanze kikamuhindura ivyo yizera byose.
Et ils se font complètement mais détournés.
Agahindukizwa wese ukamuburiyo yaciye.
Ce prophète m'a dit
ngo muvugishwa yambwiye ngo.
Et d'un seul coup, juste avec une seule parole, la personne a réussi à séduire.
Mais iryo jambo rimwe gusoma umuntu yamubwiye ikamuhindukiza wese.
Et ce chrétien commence à agir n'importe comment.
Agatangura gukora ibintu udatahura n'abanyaradatahura.
Et je dis n'importe comment parce que vous allez voir les fruits dans quelques années.
Mvuga ibintu adatahura nawe udatahura kubera kurabona ivyamwa nyuma yawe.
Des gens qui vont croire tout et n'importe quoi.
Umuntu akizera ibintu byose byaho nibitabaho.
Et on se disait mais c'est bizarre, je pensais qu'il avait un peu de discernement celui-là.
Ukavuga uti je narinze kujya umuntu atahura basi nabuke buke.
Il avait été enseigné, il avait l'air même de recevoir des choses du Saint-Esprit.
Yari yarigishijwe yari yarahawe n'ivyampwemuye.
Mais alors il y a une déviation totale.
Ariko yahindukiye wese wa mubuze.
Mais là dans cette période là ça va être, on a une expression en français, un méli-mélo, c'est-à-dire tout va être mélangé dans tous les sens. Tout va être mélangé. Seulement les gens qui auront l'amour de la vérité, qui seront extrêmement accrochés au Seigneur, vont passer cette période de séduction sans se faire avoir. Parce que ces faux prophètes, ces gens qui vont se réclamer d'être Christ même, ça ne va rien à voir avec tout ce qu'on a vu pour l'instant, nous, dans le temps de l'Église. La Bible
nous
parle que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des esprits de séduction, c'est marqué dans Timothée. Oui, on voit des gens, des escrocs, on en voit. Qui arrive à spoiler des gens de leur argent.
Allez
rouler complètement par des fausses paroles. On voit ce genre de choses. Mais ça ne s'est pas répandu sur toute la terre. On voit beaucoup d'aventuriers qui sont là, qui se disent serviteurs de Dieu et qui ne le sont pas. Mais là, dans cette période-là, à la fin de la tribulation, ça va être terrible. Beaucoup de gens vont se faire avoir parce qu'ils vont voir des signes, des prodiges et des miracles. Mais rappelez-vous, des faux Christ et des faux prophètes qui feront des grands prodiges et des miracles. Donc l'idée c'est d'aveugler les gens par du spectaculaire pour séduire ces personnes, pour qu'évidemment elles prennent la marque de la bête. Ça nous savons que c'est l'objectif, l'objectif satanique. Donc une grande confusion. Et justement Jésus va donner trois paraboles dont nous allons juste parler d'une manière générale maintenant, mais que je vous expliquerai dans les prochains enseignements. À la fin de Matthieu, versets 45 à 51, il va y avoir la parabole du bon et du mauvais serviteur. Le problème, c'est que là, ça doit être interprété avec l'éclairage que nous venons de donner maintenant. C'est-à-dire cette séduction totale, cette confusion complète. Sinon, on pourrait interpréter ça n'importe comment. C'est souvent le cas,
d'ailleurs.
Et la fameuse parabole des 10 vierges. Celles qui ont de l'huile, celles qui n'ont pas d'huile. Là encore, on ne peut rien comprendre si on n'a pas des éclairages sur le contexte. On est à la fin de la tribulation, dans toute la confusion. Plein de gens se réclament de Dieu. Dieu. Oui, mais parfois Dieu et Dieu, c'est pas le même Dieu. Ça peut être une expression qu'on peut utiliser avec tout un tas de croyances qui sont complètement différentes. C'est très facile de parler de Dieu en général. Maintenant, il faut savoir parler de Dieu le Fils qui est mort et ressuscité. Parce que c'est la porte, le bon berger, le chemin, la vérité et la vie. Nous en parlons. Puis il y a la fameuse parabole des talents. Et on voit à chaque fois, le bon a l'air d'aller du côté de Dieu. Et le mauvais va en enfer. Alors ça a mis beaucoup de confusion parce qu'on a voulu appliquer ça à l'église directement. Mais nous allons découvrir que ça ce sont des paraboles pour le deuxième, dans le contexte du deuxième retour de Jésus. Ça va nous éclairer. Ensuite, nous clôturerons par le chapitre de Matthieu 25. Par la fin du monde, à partir du verset 31, il y a la fin du monde, où il y a séparation, il y a la mort de tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus, les inconvertis. Et les fameux « j'étais malade et vous ne m'avez pas visité, j'étais en prison et vous n'êtes pas venu vers moi. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. » Et ce n'est pas dans le contexte de l'Église. Nous verrons que ce sera un signe réel pour savoir si quelqu'un était sauvé et qu'il a pu aider quelqu'un qui était dans la persécution. Je sais que nous aimons utiliser tous ces textes pour l'Église. Il
n'y
a pas de problème, on peut utiliser certaines paraboles d'une certaine façon. Mais là où Jésus les a données, c'est vraiment dans le contexte de la fin de la tribulation. Les horreurs de la persécution satanique. Mais aussi, bien sûr, le fait de la séduction des gens qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. Qui sont de faux Christ et de faux prophètes. Et des gens qui ne recevront pas l'évangile. Et qui seront de faux chrétiens en vue de séduire les autres. Nous expliquerons cela à la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.